Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Clémentine Autain.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Sur BFM TV à l'instant, je disais que je allais vous recevoir et je disais que vous étiez députée ou peut-être frondeuse, la France Insoumise. J'ai vu que ça vous faisait un peu sourire. On va y revenir.
Mais pas ce terme.
Bon, vous allez me dire pourquoi. Mais Clémentine Autain, je voudrais d'abord qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon. Parce que depuis une semaine, à chaque fois que je reçois un élu du Rassemblement National, je lui pose cette question. Est-ce que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Et au fond, je me suis dit, pourquoi je vous poserais pas cette question pour Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est antisémite?
Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. Et je trouve d'ailleurs que le déplacement dans le débat public justement de savoir qui est antisémite, qui est porteur d'un discours antisémite, qui peut protéger les Juifs durablement ou qui ne les protège pas, eh bien, il y a un brouillage qui est absolument phénoménal.
Mais de la part de qui le brouillage?
Il y a un brouillage général dans le débat.
Non, mais qui brouille les pistes dans le débat
politique, tout le monde doit balayer devant sa porte. Que les choses soient claires. Mais on observe une trumpisation de la vie politique, du débat médiatique, qui est très préoccupant. Et au fond, on perd les repères, qui sont des repères historiques, qui sont des repères de principes et de valeurs également.
Est-ce que ce n'est pas précisément pour cette raison qu'on ne peut pas se permettre d'être ambigu dans la période?
C'est la raison pour laquelle il faut en effet peser ces mots.
Et quand on a Jean-Luc Mélenchon qui parle d'un prétexte antisémite pour la marche, une marche des amis du soutien inconditionnel au massacre qui ont donc désormais leur rendez-vous, quand il cite systématiquement Yael Braun-Pivet, repris d'ailleurs par Tahabouaf, ancien élu de chez vous, ancien candidat de chez vous, qui dit une certaine Yael Braun-Pivet qui est à chaque fois citée, alors qu'on pourrait citer Gérard Larcher, qui n'est pas cité. Quand on dit, à propos de journalistes qui minimiseraient le nombre de manifestants au soutien à la Palestine, Jean-Luc Mélenchon dit d'eux qu'on minimise, il parle des journalistes de Libération et de BFM TV, parce qu'on aurait le même patron, et il sait bien qu'il fait référence à Patrick Drahi, un juif qui contrôlerait donc les médias. Est-ce que ce n'est pas faire preuve au minimum d'ambiguïté?
Je vous le redis, je pense qu'il faut en effet peser chaque mot, et je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de formulations de Jean-Luc Mélenchon dans ses tweets. C'est clair.
Est-ce qu'il s'agit de formulations à tendance ou à connotation antisémite?
Je pense qu'il faut faire attention. Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. D'ailleurs, notre électorat, nos sympathisants, nos militants sont non seulement heurtés d'entendre parfois du matin au soir sur les médias l'idée que nous pourrions être complices de l'antisémitisme.
Ah mais moi, j'adorerais pas avoir à vous poser cette
donc
question.
Pour moi, je veux juste vous dire
je me réjouirais de pas avoir à poser cette question ni aux uns ni aux autres.
Insensé. Pour vous dire les choses, je trouve ça insensé.
Mais je me réjouirais du coup que cette ambiguïté.
Je trouve insensé qu'on ait ce débat
tweet
aujourd'hui.
Tweet.
Voilà. Et que Yael Braun-Pivet porte une responsabilité, avec Gérard Larcher aussi, d'avoir introduit le Rassemblement National dans la manifestation en étant incapable de répondre à la simple question sur TF1 qui était « Est-ce que le Rassemblement National est bienvenu dans la manifestation ?» Elle ne sait pas répondre. Non. Et ça fait un moment que ça dure, puisque la banalisation, la respectabilité de l'extrême droite, elle a été aussi donnée par la Macronie.
Donc vous estimez qu'ils ont une responsabilité ?
Ils ont une responsabilité dans le brouillage du paysage politique, des valeurs, des principes, et ils ont une responsabilité dans la notabilisation et la respectabilité nouvelle. Vous vous rendez compte, ils l'intègrent dans le champ républicain.
Alors, moi, il faut préciser les choses, Clémentine Autain, il n'était pas, et on a bien vu les images, moi-même j'y étais, donc je peux en témoigner de manière vraiment de visu. J'ai couvert cette manifestation pour BFM TV, je n'ai pas vu d'élus du Rassemblement National dans le carré de tête qui était effectivement l'espace officiel. Les élus du Rassemblement National se sont joints à la manifestation,
Je pense que le message, si nous sommes allés à Strasbourg avec François Ruffin, Alexis Corbière, Raquel Garrido, nous étions, vous le savez, avec le député de la circonscription à Strasbourg, Emmanuel Fernandez, si nous étions dans cette manifestation, c'est précisément parce que j'estime que les initiateurs, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, ont manqué de clarté dans l'éviction de l'extrême droite de ces manifestations, de dire très clairement qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et je pense également que dans l'appel, que les Français n'ont pas vu, puisque c'était une marche qui disait non à l'antisémitisme. Et si moi j'ai marché, si nous avons marché avec mes collègues, et si nous sommes allés à Strasbourg, c'était pour dire ce message simple, stop. Il y a une recrudescence des actes antisémites en France. Ce problème est sérieux. Et nous voulions exprimer notre solidarité et notre empathie à l'égard de tous les Juifs qui aujourd'hui ont peur, qui subissent des insultes, des menaces, des actes concrets, des agressions antisémites. C'est important de pouvoir le dire. Mais j'estime que les initiateurs n'ont pas permis la concorde nationale.
Vous avez utilisé le mot, ils ont une responsabilité dans le fait de ne pas avoir fait preuve de clarté. Je vous repose la question, Jean-Luc Mélenchon devrait-il faire preuve de davantage de clarté et ne pas jouer avec les mots comme il le fait.
Je vous le redis, je pense qu'il faut peser les mots. Il faut peser les mots, il ne faut pas jeter d'huile sur le feu et il faut être capable d'exprimer de l'empathie.
Il faut ou Jean-Luc Mélenchon doit ?
Je ne veux pas personnaliser, je ne veux pas...
Ce sont des tweets qui sont signés, donc c'est très personnel.
Et ben voilà, je vous réponds très clairement.
En tout cas, ce sont des tweets dont vous vous désolidarisez.
Il faut faire attention aux mots que l'on emploie.
Vous n'avez pas au bout.
Je pense que c'est difficile d'être plus clair que ce que je suis en train de dire. C'est très clair. Je pense que celles et ceux qui nous regardent ont compris ce que je voulais dire. Mais comprenez les choses, c'est que pendant ce moment-là, où effectivement, par des tweets qui manquent, qui ont des mots qui ne sont pas bien choisis, et que nous avons ces polémiques.
Ils sont tout à fait choisis. Non, mais c'est là. D'accord, pardon. C'est là qu'on est en dans un dialogue.
De mon point de vue, ils sont bien choisis.
C'est là qu'on est dans un dialogue de dupes, de sourds. C'est que Jean-Luc Mélenchon, et vous en conviendrez avec moi, est un homme intelligent, cultivé, qui sait manier le verbe, et qui donc sait parfaitement choisir ses mots.
J'entends.
Il s'agit donc de mots qui ont été choisis. Sciemment.
J'entends tout à fait. Mais je veux juste insister sur un point. C'est que il y a l'histoire et il y a la philosophie générale des formations politiques et des grandes familles de la gauche et de l'extrême droite. Dans l'histoire, jamais, absolument jamais, l'extrême droite n'a été du côté du combat contre l'antisémitisme de façon concrète.
En revanche, je vous parle aussi d'aujourd'hui.
Mais écoutez-moi.
Ce qui est important aussi, c'est aujourd'hui.
Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est important, c'est que le Rassemblement national n'a jamais fait sa mise à jour par rapport à son histoire. De quoi parle-t-on ? On parle d'une histoire de collaboration avec Vichy. Vichy est complice du nazisme, et le nazisme, c'est 6 millions de juifs qui ont été tués dans une industrie qui est une industrie
monstrueuse. Mais aujourd'hui, les dirigeants... Alors,
la gauche.
On met une semaine à le dire, mais commençait par dire que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, avant, au bout d'une semaine, de dire qu'il y avait eu maladresse et qu'en réalité, il était bien antisémite.
Jordan Bardella a dit clairement qu'il n'était pas... Non, écoutez, excusez-moi, mais...
Je vous reprends simplement ce qui s'est passé pendant une semaine. Il a commencé par dire qu'il pensait que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, avant de dire...
qui nous écoutent.
Qu'il s'était trompé.
Stop. Pour
Allez-y.
Celles et ceux qui nous écoutent.
Allez-y.
Voilà. L'histoire de la gauche, c'est la fierté en 1789 d'avoir été capable de donner la citoyenneté aux Juifs contre les réactionnaires qui ne voulaient pas la donner et qui même ont interprété la Révolution française comme étant un complot judéo-maçonnique. Ensuite, quand il y a eu l'affaire Dreyfus, d'accord ? Qui s'est élevé ? Quelle grande voix s'est élevée ? C'est celle de Jaurès. Dans les années 30.
Il y a eu une partie de la gauche qui
mais bien sûr,
au début,
il y a eu longtemps. Mais il y a eu longtemps, Proudhon, Marx. Vous pouvez trouver des propos antisémitiques d'époque, comme vous pouvez trouver des propos.
C'est pour ça que je préfère m'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui.
Non. Écoutez-moi bien. Il y a dans l'histoire eu un antisémitisme à gauche, mais pas d'antisémitisme de gauche. Ceux qui ont théorisé l'antisémitisme, qui l'ont porté officiellement, publiquement, c'est Maurice Barrès, c'est Édouard Drumont, c'est Charles Maurras, ce sont des personnalités d'extrême droite. Et Vichy et les années 30, il y avait deux côtés, vous savez. Qui était du côté de Vichy et qui a combattu dans la résistance ? Là, on voit l'extrême droite, la gauche. Et par ailleurs, aujourd'hui...
Clémentine Autain, aujourd'hui, continue, est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas d'antisémitisme à gauche ?
Non, je vous réponds sur aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est que ceux qui pensent que l'extrême droite va protéger les Juifs se leurrent. Parce que dans le logiciel idéologique, les principes qui les portent, c'est le rejet de l'autre, d'accord ? Et ce rejet de l'autre, cette haine de l'autre, elle est au fondement de tous les racismes et donc potentiellement d'un nouvel antisémitisme. Parce que le fameux nouvel antisémitisme dont on nous parle, qu'est-ce qu'il vise à faire ?
Il n'existe pas, ce nouvel antisémitisme ?
L'antisémitisme a toujours été protéiforme, il n'y a pas une raison, et c'est très ancien. L'antisémitisme n'est pas né aujourd'hui, c'est très ancien. Mais par contre, à chaque fois, il est nourri par la haine et le rejet de l'autre. Donc quand on appelle aux valeurs de la République, au respect des principes fondateurs de notre humanité, alors on ne peut pas intégrer l'extrême droite et on ne peut pas compter sur l'extrême droite.
Quand vous parlez de ce nouvel antisémitisme, ce serait un nouvel antisémitisme qui viendrait notamment, dit-on, des quartiers qui seraient justement, qui se nourriraient à ce qu'il se passe au Proche-Orient. Le journal Le Monde, hier
et
soir...
Hier sur votre plateau,
dit,
Monsieur Chenu a osé nous expliquer
j'y viens,
que...
J'y viens. Ouais, le journal Le Monde hier dit, à propos de Jean-Luc Mélenchon, il croit préserver ses parts de marché électoral. En 2017, il a réalisé de très bons scores dans les quartiers où la cause palestinienne est embrassée par une jeunesse issue de l'immigration. C'est électoral.
Écoutez, moi je pense que notre responsabilité, elle est d'abord justement par rapport à... Moi je suis élue de Sevran, Tremblay et Villepinte.
Saint-Denis.
Je suis favorable à ce que nous organisions, j'espère cette semaine, peut-être vendredi avec le maire de Sevran, une marche au flambeau pour la paix et qui permette de dire, et c'est quand même pas très compliqué, de dire à la fois que les crimes du 7 octobre, c'était insupportable, insoutenable,
mais
inadmissible, injustifiable.
Mais pourriez-vous faire cette marche au flambeau avec marqué contre l'antisémitisme?
Et de dire,
est-ce
et
que
de,
vous pourriez
oui,
le faire?
On peut le dire, bien sûr,
donc
contre
vous,
l'antisémitisme
vous le ferez dans cette marche,
et contre
sera...
tous les racismes, et je le dirai.
Mais aujourd'hui, deux, les actes qui se posent, ce sont les actes antisémitiques.
Je vous dis, la paix, c'est les actes du 7 octobre, et c'est la situation aujourd'hui à Gaza. La situation aujourd'hui à Gaza, elle est inadmissible.
Mais sur ce qui se passe ici, en France, Clémentine.
Il faut un cessez-le-feu, Apolline de Malherbe. Il faut un cessez-le-feu. Il faut arrêter d'être hémiplégique dans notre regard, dans la souffrance et dans nos principes. Mais je vous parle aussi de la répercussion. Les gens, ils sont touchés par ce qui se passe là-bas. Alors, il ne faut pas importer. Il ne faut pas importer le conflit, c'est-à-dire justement opposer les uns aux autres, faire une concurrence terrifiante entre les victimes d'un côté et les victimes de l'autre. Moi, j'ai de l'empathie et j'ai envie de pleurer pour les morts du 7 octobre et pour les morts de Gaza aujourd'hui. Mais c'est pourquoi il faut demander le cessez-le-feu. Donc cette marche, on la fera pour le cessez-le-feu à Gaza, immédiat. Et je regrette que la parole de la France manque de clarté, de force.
En et, vous ferez cette marche,
totalement...
et vous ferez cette marche.
Excusez-moi, mais Emmanuel Macron ne comprend rien à ce qu'il est en train de
on
dire.
On va y revenir, mais là, vous avez cité Sébastien Chenu, qui était effectivement sur ce plateau hier, qui est député RN du Nord.
Mais
et
c'est scandaleux ce qu'il a dit sur votre plateau.
Je voudrais qu'on l'écoute, justement.
Scandaleux.
Un jeune juif, il risque plus sa peau dans un environnement islamiste, par exemple en Seine-Saint-Denis, que dans une manif du Rassemblement National, ça c'est sûr.
Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je suis scandalisée, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'au fond, pour eux, manifester contre l'antisémitisme, c'est l'occasion de s'en prendre toujours au même public, c'est-à-dire au quartier populaire et au monde arabo-musulman. Voilà, c'est à ça que ça sert. Ça sert à se donner une respectabilité, mais pour, au fond, en revenir toujours à la même chose. Or, la réalité, c'est que quand on combat l'antisémitisme, ça veut dire qu'on comprend que la haine de l'autre peut amener au pire, et que donc, dans le même mouvement, on doit aussi intégrer le fait que nous devons être au clair sur le rejet des musulmans qui existent dans notre pays, et nous devons être aussi aux côtés de ces quartiers populaires qui en souffrent terriblement. Est-ce que c'est possible de tenir les deux bouts? C'est ça pour moi la gauche, c'est ça l'humanité, c'est ça être progressiste.
Mais il y a un moment
et
où
eux,
effectivement...
Est-ce ce sont qu'on peut, est-ce des semeurs peut... de haine, ce sont des semeurs de haine. Monsieur Chenu, ce qu'il vient de faire, c'est de la haine. Voilà.
Mais pardon, quand Jean-Luc Mélenchon dit que la marche, c'est une marche de ceux qui soutiennent un massacre, c'est pas un semeur de haine?
Non, mais c'est factuellement faux. Je veux dire, ce qui s'est passé dans la manifestation de dimanche, il est faux de dire qu'il y avait dans cette manifestation que des gens qui soutenaient Netanyahou. Enfin, faut quand même qu'on arrive à se dire.
Donc Jean-Luc Mélenchon se trompe. Et quand il dit que la marche était un, pour vous, succès ou échec?
Écoutez, je pense que c'est faux de dire que c'est un échec. Non, je ne crois pas que c'était un échec.
Là encore, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit. Il parle d'un échec.
Produit. Je pense que ça aurait été davantage réussi si les initiateurs avaient été capables de concorde. Parce que à gauche, notamment, beaucoup se sont posé la question. On s'est interrogé, faut-il y aller, pas y aller? Le groupe de la France Insoumise a décidé de ne pas s'y rendre parce qu'il y avait la présence de l'extrême droite.
On l'a bien compris, et vous
ne convenez pas.
Et vous, avec une poignée, on va y revenir, ont décidé d'aller à Strasbourg.
Mais aussi, comprenez-le bien, pour moi, il n'y a pas à dire ceux qui étaient, c'est scandaleux, ou ceux qui n'y étaient pas, c'est scandaleux.
Mais moi,
je
vous pose cette question, c'est que vous restez dans la NUPES, avec à la tête de la NUPES un Jean-Luc Mélenchon qui dit c'est un échec, toute la droite et l'extrême droite ont échoué à produire des mobilisations. utilisation générale du passé. Il y a l'un de vos collègues insoumis députés qui dit
on avait entendu
dans le cortège parisien de nombreux propos islamophobes relayés par les médias. Oui, mais tant que vous aurez l'étiquette LFI et NUPES, vous parlerez aussi au nom des autres.
Mais je pense que le discours que je suis en train de vous tenir est un discours de gauche simple et qui, normalement, rassemble la gauche. Quand je vous dis que les Juifs ne sont pas responsables de la politique de Netanyahou et, dans le même temps, que critiquer la politique d'Israël n'est pas synonyme d'antisémitisme, je pense que ça, c'est très simple et c'est ce qui rassemble la gauche. Ce qui nous rassemble, c'est que nous sommes des humanistes, que nous sommes pour la paix, que nous demandons un cessez-le-feu, que nous sommes évidemment du combat contre l'antisémitisme.
Est-ce que le cessez-le-feu, c'est qu'Israël arrête les crimes de guerre? Et les otages?
Bien sûr qu'il faut libérer les otages.
Donc, que faire?
Il faut exiger le cessez-le-feu, la libération des otages, mais il n'est pas acceptable qu'Israël, pour, comme ils disent, se défendre. Faisons attention, parce que normalement, dans le droit, le 7 octobre au matin. Mais la guerre, ça fait 75 ans qu'elle existe.
Le 7 octobre, c'est
un tournant dans la stratégie du Hamas. C'est l'évidence. Mais il y a 75 ans de guerre derrière qu'on ne peut pas non plus balayer d'un revers de la main.
Est-ce que pour vous, le cessez-le-feu est sans condition ou est-ce qu'il faut d'abord exiger la libération des otages?
Il faut la libération des otages, mais ça, même s'il n'y a pas la libération des otages, Israël n'a pas le droit de s'asseoir sur, justement, les normes internationales dans le fait de faire la guerre. Là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Gaza? Qu'est-ce qui se passe? Même les hôpitaux sont arrêtés. Les gens meurent parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a plus de carburant. Dans 48 heures, l'aide humanitaire ne va plus être possible.
Vous imaginez Israël abandonner le sort des otages prononcés?
Je dis juste qu'Israël doit respecter le droit international, doit arrêter les crimes de guerre et que la vengeance aveugle n'est pas possible, n'est pas acceptable. Et qu'au G7, la seule voix qui se soit élevée, c'était Emmanuel Macron pour dire qu'il fallait se cesser le feu, puisque l'ensemble du G7 ne dit rien, laisse Israël faire d'une certaine manière. Et cette voix, elle est une voix qui dépend des jours. C'est celle d'Emmanuel Macron, où un jour il dit cela, et puis le dimanche, il appelle le président israélien pour lui dire qu'au fond, oui, il est d'accord, Israël doit pouvoir se défendre,
et puis il
retire ce qu'il a dit. Donc j'aimerais qu'on ait une parole de la France équilibrée, forte et qui soit capable d'affirmer nous voulons le cessez-le-feu, nous voulons la paix. Et pour qu'il y ait la paix durable dans cette région, alors il faut que les Israéliens qui sont un peuple aient un État et que les Palestiniens qui sont un peuple aient un État. Or aujourd'hui, ceux qui n'ont pas d'État, ce sont les Palestiniens. Si nous ne comprenons pas cela, alors nous sommes à côté de l'histoire.
Et je pense que c'est possible de tenir tous ces bouts-là. Et ça, c'est un discours de gauche, et ça rassemble la NUPES. Vous étiez à cette marche à Strasbourg et vous y étiez avec François Ruffin, Alexis Corbière et Raquel Garrido. C'est les quatre frondeurs de la NUPES.
J'aime pas ce terme, excusez-moi.
Alors trouvez-en un autre, comment vous définiriez?
C'est venu, j'aime pas parce que frondeur, ça fait référence à une histoire, celle récente du Parti Socialiste, qui était très honorable, puisqu'ils ont dit non à la politique qui était menée par François Hollande et qui a amené au désastre.
Vous avez un peu la même attitude.
Logique de marché. Non, mais ça correspond à une histoire. Je pense que nous, c'est autre chose.
En effet,
nous disons que nous disons plusieurs choses. Nous sommes très attachés à la NUPES. Nous pensons que pour gagner en 2027, il faut chérir ce rassemblement, et nous pensons que en termes d'orientation politique, de profil politique, on a besoin de davantage de solennité et de ne pas être dans l'outrance ou le clash. Voilà, c'est deux. Je le dis avec mes mots comme ça simplement ce matin, mais j'ai l'impression qu'en effet, c'est ce qui nous rassemble. Nous avons été d'accord.
Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui doit porter ses idées? Quand vous avez Raquel Garrido qui a tenu ses propos en disant le candidat peut changer, partir à la retraite, changer de rôle, la France insoumise peut se passer de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pourriez signer ces mots?
Non, mais c'est juste que Jean-Luc Mélenchon n'est pas éternel et que la NUPES, la France insoumise, ne se réduit pas aux seuls propos de Jean-Luc Mélenchon. Donc là, ça fait quand même un moment que vous m'interrogez là-dessus.
Est-ce que la France insoumise peut se passer de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que ce serait même souhaitable?
Je peux vous dire que, par exemple, sur toute la séquence, quand on regarde précisément les programmes des uns et des autres, quand on écoute attentivement ce que disent les uns et les autres, il est faux que sur tous les sujets que nous avons traversés, très épineux, très polémiques depuis ces dernières semaines, il est faux de dire que nous ne pourrions pas être rassemblés à gauche, la gauche et les écologistes, sur l'ensemble de tout cela.
En tout cas, vous n'étiez pas rassemblés voilà. donc c'est vrai que c'était même physiquement, chacun avait choisi.
Arrêtez de mettre de l'huile sur le feu.
Mais qui met de l'huile sur le feu?
Je ne vais pas moi-même dire c'est un tel, etc. Non, stop.
Non, en fait, je trouve que vous dites beaucoup, il faut, mais qui?
Comment ça, il faut,
Qui met tout le monde sur le feu, qui manque d'ambiguïté,
Mais je vais pas vous faire la liste, parce que vous me parlez de Jean-Luc Mélenchon, mais je pourrais aussi citer d'autres. Mais je n'ai pas envie, je ne suis pas là pour donner des leçons aux uns et aux autres, et pour rentrer en polémique avec tel ou tel. Ça n'est pas mon projet ce matin. Je suis venue vous dire quel peut être et quel doit être, à mon sens, le message de la gauche. Et que ce message-là, il est rassembleur.
Est-ce qu'il vous laisse
rassembler?
Est-ce que vous
et que les militants, les sympathisants
rassembler?
C'est
Raquel Garrido, elle s'est quand même fait,
je sais bien, et je suis en désaccord. Je pense qu'on ne traite pas des différents politiques, des désaccords politiques par des décisions bureaucratiques. Je ne le crois pas. Et je pense que la sanction de ce type n'est pas appropriée. Et qu'en plus, quand elle semble être avec deux poids, deux mesures, que d'autres, si on rentre dans une logique de sanction que je ne partage pas, parce que je ne le crois pas, alors à ce moment-là, pourquoi s'en prendre seulement à Raquel Garrido? Mais je ne suis pas pour rentrer dans une logique de sanction. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on s'écoute. Et un des problèmes que nous avons à la France Insoumise, et ça fait très longtemps que je le dis, très longtemps.
Et vous l'avez dit plusieurs fois à ce micro.
C'est que où est-ce qu'on peut laver notre linge sale en famille? On nous dit, mais il faut laver le linge sale en famille. Mais très bien. Mais c'est où le lieu? Où est la machine à laver? Où est la buanderie, comme a dit Alexis Corbière? C'est la question que nous posons. Donc, j'estime que la NUPES devrait se ressaisir, avoir des lieux de débat où on peut aplanir les choses et offrir un profil qui donne une perspective. Vous vous rendez compte que là...
Et vous espérez encore que ce soit possible, Clémentine Autain?
Mais je n'espère pas, je me bats pour que ce soit possible. Ça doit être possible. Je ne veux pas d'extrême droite à la tête de mon pays. Et je me battrai jusqu'en 2027 pour qu'on ait une solution. Vous m'entendez, Apolline de Malherbe?
Parfaitement.
Et les militants, les sympathisants qui nous entendent, ils n'en peuvent plus de ces polémiques. Ils craquent. Mais c'est quoi? C'est pas la gauche, ça.
N'hésitez pas à le dire, justement, à Jean-Luc Mélenchon et aux autres. Oui. Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci d'être venue ce matin. 8h53 sur RMC.